C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Si vous nous rejoignez, nous parlons du scandale de la surexploitation des migrants qui constitue l'essentiel de la main-d'œuvre agricole européenne. Nous sommes en compagnie de Nicolas Dunes, en charge du groupe de travail saisonnier migrant à la Confédération Paysanne. Mais je vous propose tout de suite de nous rendre dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, à Almeria, où il y a des milliers d'hectares de serres qui s'étendent à perte de vue. C'est la réserve de fruits et surtout de légumes de l'Europe. Plus de 100, 120 000 travailleurs migrants sont venus principalement d'Afrique. Ils y travaillent sous ces serres dans des conditions extrêmement difficiles. Alice Milo a rendez-vous avec Spitu Mendy. Il est le porte-parole du SOCSAT, le syndicat des travailleurs andalous.
Alors où est-ce qu'on est ici, Spitu?
On est dans nos bureaux, les bureaux du SOC, le syndicat des ouvriers agricoles en Andalousie.
Et donc ici, on est dans la salle d'attente, c'est ici que vous accueillez les travailleurs migrants?
Effectivement, on reçoit des centaines par semaine d'ouvriers agricoles. Et il y a l'ouvrier qui a des problèmes avec son patron au niveau de la serre et qui ne sait pas où aller. Il vient taper à notre porte. Nous, comme intermédiaires, nous appelons la médiation, nous parlons avec le patron. Des fois, il revient sur sa décision de l'avoir licencié, le réadmet au travail. Et des fois, s'il refuse catégoriquement, nous lui expliquons que, plus de la médiation que nous faisons, nous sommes un syndicat et nous pouvons porter plainte contre cette décision. Et cela fonctionne comme ça.
Ce matin, il y a deux personnes qui attendent dans la salle d'attente. Peut-être qu'on peut juste leur demander brièvement les raisons qui les ont amenés ici.
Oui, s'ils peuvent s'y prêter au jeu. Pourquoi est-ce qu'il y aura?
Tout m'explique à lui. Il y a un problème.
Vous êtes de quelle nationalité?
Je suis marocain.
Depuis combien de temps vous travaillez dans les serres en Espagne?
Je travaille depuis environ 5 ans. Avant, j'étais sans papier. Puis, j'ai été régularisé. Et là, si je suis ici au SOC, c'est parce que j'ai une maladie professionnelle. Je ne peux plus travailler et le patron ne m'a pas déclaré toutes mes heures. Je ne peux donc pas percevoir mes indemnités. J'ai lancé une procédure pénale et là, nous en sommes au niveau des tribunaux.
Et ça fait combien de temps, monsieur, que vous êtes sans revenu?
Ça fait 2 mois.
Vous avez eu un accident de travail ou est-ce que votre problème de santé il est lié à autre chose?
C'est un accident de travail lié au poids de ce que l'on porte. C'est très lourd et à un moment donné, j'ai senti une douleur au niveau de mes hanches et je suis tombé d'un coup.
Imaginez-vous, ce monsieur, après 1 an de travail, ses cotisations correspondent à 1 mois. Ça veut dire 30 jours seulement de cotiser. Il faut leur apprendre à porter plainte, leur apprendre à réclamer le droit et se sentir vraiment humain, se sentir personne. Parce que certains, face à cette situation, abandonnent. Et nous, notre fonction dans tout cela, c'est éveiller des consciences, être leur voix, la voix des sans-voix.
Est-ce que vous mettez en place vraiment aussi des actions collectives? Par exemple, est-ce qu'il y a déjà une tentative d'organiser, je ne sais pas moi, une grève générale à travers les serres? Parce que quand on voit les centaines de milliers de travailleurs qui travaillent dans les serres, si tout le monde s'arrêtait de travailler un seul et même jour, les conséquences seraient très efficaces, non?
Ça ne marche pas pour plusieurs raisons. Ils sont analphabètes à 90%. Ils ont peur. Ils pensent qu'en le faisant, les patrons les voient et que demain, ils n'auront pas de travail. Ils ont peur. Et c'est ça notre ennemi.
Est-ce que pour vous, la responsabilité, elle est uniquement locale ou est-ce qu'il y a une responsabilité plus large, peut-être au niveau de l'Europe, par exemple?
L'Europe a beaucoup à dire à l'Espagne sur ce qui se passe à Almeria. Et nous sommes en train de voir comment déposer une plainte au niveau de la Commission des droits de l'homme de l'Union européenne. Il y a des subventions qui arrivent à ces agriculteurs à partir de la politique européenne.
La politique agricole commune.
La politique agricole commune.
Mais par exemple, vous attendez quelle législation de la part de l'Europe, par exemple?
Que l'Union européenne retire des subventions systématiquement à toutes les entreprises qui ont eu des problèmes avec le traitement des ouvriers agricoles. Nous, ça fait des années, des dizaines d'années que nous sommes en train de crier le manquement aux droits de l'homme à Almeria. Mais cette commission, je ne sais pas, elle passe, mais elle ne nous écoute pas. Il faut vraiment des mouvements d'ensemble, des critiques populaires pour pouvoir réellement que l'Europe soit l'Europe des hommes, pas l'Europe des institutions. Non, l'Europe doit être vraiment humaine. Là, je vous amène dans un autre bidonville, beaucoup plus précaire que celui que nous avons eu à visiter de l'autre côté de l'Ejido. Ici, nous sommes dans la municipalité de Níjar, beaucoup plus désertique.
Là, on est au milieu de ce campement qui est lui-même au milieu des serres. Et c'est vraiment un campement de fortune qui est fait de briques et de brocs. On voit des matériaux de récupération. Il y a une dizaine, peut-être une centaine de baraques ici.
Et comme nous le voyons, c'est des planches de bois, des cartons et des plastiques de récupération qu'ils utilisent pour se protéger. Ils ont construit leur hutte et vivent tranquillement. En 2007, la gendarmerie est venue semer la pagaille, les a chassés pour essayer de les intimider. Et nous, on est intervenus pour porter plainte et on a gagné le procès, je te le dis. Si on déloge, il faut reloger. Et ils n'ont pas souvent les moyens de le faire. On te louait un lit à 80 euros dans un garage où les gens étaient entassés. Donc tu pouvais trouver dans une maison plus de 50 personnes. Alors, abominable.
Donc là, on est en train de marcher entre les ruelles. Sur les toits des maisons, on voit des satellites et puis du linge qui sèche, des gens qui discutent à l'ombre. On pourrait croire en arrivant que c'est un endroit abandonné, mais non, il y a une vie ici. On va essayer de rentrer alors.
On va demander l'autorisation à quelqu'un de nous faire visiter l'intérieur de sa maison. On va voir.
Hola.
Salut. Quelqu'un parle français, toi?
Yo no hablo francés.
Ah, tú eres muy joven, por eso. Tú solo hablas árabe.
Sí.
Ah, tú eres español, entonces. Sí. No pasa nada.
¿Vos habitez ici?
¿Vives aquí?
Sí, yo vivo aquí.
Oui, j'habite ici.
Combien de personnes vivent ici, monsieur?
70 ou 80.
Entre 60 et 80 personnes.
Donc on rentre dans une ruelle, au milieu des baraquements. Il y a un verrou sur la porte de sa maison.
Ouais.
Enfin, de sa bicoque, plutôt.
Choukran.
Je viens de Las Dos et mes boys.
Vous vous appelez comment?
Charkaoui.
Vous avez quel âge?
J'ai 29 ans.
Depuis combien de temps vous vivez ici?
Ça fait presque deux ans.
Et c'est vous qui avez construit cette maison?
C'est un campanaire ami.
Oui, avec l'aide de quelques copains. On a utilisé des palettes de récupération que notre patron a bien voulu nous donner. Et c'est comme ça qu'on a construit, avec tout ce que tu vois, des planches, du plastique.
Ça fait à peu près 8 mètres carrés ici. Donc là, vous avez, on voit au fond de la pièce, là, il y a une baignoire. Vous avez un petit coin cuisine avec deux frigos et puis un canapé. Vous avez l'eau courante ici, dans ce petit village?
Il y a des bassins de rétention d'eau près des serres. Et comme l'année dernière, j'ai aidé le patron à les nettoyer, il me laisse prendre de l'eau là-bas. C'est avec ça qu'on se lave.
Vous avez l'électricité ici?
Oui, on récupère l'électricité des pylônes sur la route. On monte, on bricole un truc et on récupère l'électricité pour nos maisons.
Donc ils piquent en fait l'électricité qu'il y a sur le réseau électrique le long des routes en fait.
Hein.
Oui, mais sans électricité ici, ce serait vraiment pénible. Donc on se débrouille comme ça. On en a besoin pour faire marcher les frigos, pour nous éclairer et pour regarder la télévision.
Vous venez du Maroc?
Oui, je suis arrivé en Espagne très jeune, à l'âge de 17 ans. Je n'avais aucune idée de là où je mettais les pieds. J'ai pris une pirogue à Fuerteventura et je suis venu. Les gens quittent le Maroc parce qu'il y a trop de pauvreté. Et moi, en fait, j'ai juste suivi le mouvement.
Vous avez pris une pirogue et vous avez traversé donc le détroit qui sépare le Maroc de l'Espagne. Est-ce que c'était dangereux ?
Avant, je n'avais jamais vu la mer. J'ai quitté mon village natal, j'ai payé un type, je suis monté dans une petite embarcation. Je te jure, j'avais vraiment des vertiges, j'ai vomi. J'ai même pensé que j'allais mourir. Quand j'ai mis les pieds sur la terre ferme, ça tournoyait.
Comment ça se passe le travail à l'intérieur des serres?
On nous parle mal, on nous crie dessus, on nous insulte même des fois. On ne nous considère pas comme des personnes, mais comme une force de travail, c'est tout. Tout est fait pour nous soumettre. Eux, ils prennent tout le profit et nous, on n'a rien.
Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.
La voix des consommateurs est très importante parce que en fait, c'est lui qui permet l'écoulement des produits. À partir du moment où on freine la chaîne, ça donne à penser.
Qu'est-ce que le consommateur peut faire exactement?
Le consommateur peut s'organiser et dire « je n'achète plus parce que il paraît ou j'ai vu que ici les travailleurs ne sont pas bien traités. »
Donc boycotter les produits.
Aïe. Ça veut dire que je suis en train de scier la branche sur laquelle je suis assis. C'est difficile. Je crois que 2 jours de boycott ne tue personne. C'est comme la grève.
Mais les consommateurs ignorent cette situation ou les consommateurs refusent de voir?
Beaucoup le savent, mais ils sont impuissants, ils disent. Des fois, les gens regardent leur poche, ils disent que bon, puisque c'est moins cher, je l'achète. Il faut éduquer le consommateur. Nous avons vu proliférer des entreprises de certification, de tout cela. Ici, qu'est-ce qu'on certifie? On calibre le calibre de la tomate, la beauté du produit, mais on ne regarde pas les conditions sociales. Et ces conditions sociales, il est temps de les certifier. Voilà, on est là, on est à Balerma. Je voudrais te présenter un agriculteur pas comme les autres, il s'appelle Mathias, il fait du bio et nous le considérons exemplaire. Il s'ouvre, il dit ce qu'il ressent.
Toc, toc.
Hola.
Hola, buenas tardes, bonsoir. Buena.
Est-ce qu'on peut visiter?
Podemos visitar? Sí, claro, claro.
Alors je vous suis. Donc là on quitte votre jardin et on rentre dans votre serre.
Bueno, aquí hacemos una agricultura diferente a como se hace en la zona. Aquí tenemos un proyecto de permacultura.
Ici, on fait une agriculture différente. On fait de la permaculture. Nous, on travaille uniquement avec le sol pour être le plus respectueux possible de l'environnement. Il n'y a que moi et mon épouse qui travaillons ici. Nous cultivons des poivrons, de la tomate, des carottes. Enfin, il y a tellement de choses que ça prendrait 5 minutes au moins de vous faire la liste. Tout ce que vous voyez ici est complètement naturel. Nous avons des chèvres à côté et leurs excréments servent d'engrais pour nos cultures. Il n'y a aucun produit chimique ici. Il y a 35 ans de cela, j'ai immigré en France pour travailler comme ouvrier agricole. J'avais 17 ans. Quand je suis revenu, je me suis acheté un lopin de terre pour pratiquer l'agriculture conventionnelle. Mais au fur et à mesure des années, j'ai compris que je ne voulais plus porter préjudice à la nature, aux travailleurs et aux consommateurs. Et c'est comme ça que je suis passé au bio.
Comment ça se passe les relations avec vos voisins? Ils doivent vous prendre pour un marginal, non?
Oui, on me regarde comme un oiseau rare, c'est vrai. Mais vous savez, pour moi, ce qui n'est pas convenable, c'est qu'un propriétaire qui possède plusieurs milliers d'hectares touche des milliers d'euros de subventions européennes, tandis que des milliers de petits agriculteurs comme moi ne touchent rien.
Vous, par exemple, avec votre hectare de culture, vous touchez des subventions de la politique agricole commune?
Yo estuve hace ya como 20 años.
Depuis 25 ans, je fais partie d'une association professionnelle d'agriculteurs. Je n'ai jamais rien touché. Ainsi, une fois, j'ai touché 90 euros. Depuis, rien. Alors qu'ici, en Andalousie, nous avons l'exemple de la duchesse d'Alba, une riche propriétaire qui rafle toutes les subventions.
Vous travaillez au milieu de ces serres. Vous voyez quotidiennement ces travailleurs qui viennent d'Afrique travailler sur les exploitations de vos voisins. Qu'est-ce que vous, vous ressentez vis-à-vis de
ça?
Ça me rappelle quand j'étais travailleur saisonnier en France. J'ai souffert moi aussi du racisme. Ce n'était pas la couleur de la peau, c'était plutôt la pauvreté. Donc je suis indigné, je ne comprends pas.
La mujer sofata, la mujer coge la caja, mujer con la barriga embarazada, y coge la caja hasta las 8.
Le travail dans les serres, c'est un travail difficile, surtout pour une femme. Il n'y a aucune considération. Même une femme enceinte, on l'oblige à faire le même travail que les hommes, comme soulever des caisses très lourdes. Si tu acceptes de coucher avec le patron ou chef d'équipe, tu peux commencer aussitôt à travailler. Ils n'ont pas de scrupules, pas de considération pour la famille. Pour le fait que tu sois une femme mariée, ça leur importe peu. C'est ton corps pour du travail. C'est ton corps ou tu dégages.
En fait, les familles qui vivent ici sont des familles qui travaillaient pendant plusieurs décennies. Il y en a qui ont plus de 20 ans dans ce secteur. Et l'entrepreneur, il y a 3 ans, a fait faillite et a laissé tout tomber et est parti. C'est un délinquant, un entrepreneur vraiment voyou qui a délaissé ses ouvriers sans payer les salaires. Il les a laissés dans des situations, une situation lamentable.
Ça veut dire qu'il est parti en laissant des salaires impayés, etc.
Effectivement, les salaires sont impayés pendant des années. Ce n'est pas seulement des salaires d'un mois. Le syndicat a été obligé de les épauler, lutter pour toucher leur dû. Maintenant, le problème qui reste, c'est le logement. Ça veut dire que les gens qui sont là, qui ne travaillent plus dans la ferme, les nouveaux propriétaires veulent les évincer, veulent les faire partir d'ici, les déguerpir. Voyant qu'ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ont des enfants scolarisés dans la zone, le mari de Ouria m'a expliqué qu'il y a un mois, ils leur ont coupé l'eau, ils leur ont coupé la voie d'accès à la fontaine pour amener de l'eau et l'électricité pour les forcer à partir de la zone. Ils ont allé dénoncer au niveau de la compagnie d'électricité. Ils sont venus couper le courant. L'eau, pour aller chercher de l'eau, avec des voitures, ils peuvent remonter plusieurs bidons. Ils ont fermé les accès.
Ils ont bloqué la route plus haut qui leur permettait d'avoir accès à l'eau, en fait, l'eau potable.
Parfaitement.
Oui, ils veulent nous pousser à partir. L'eau, l'électricité, ils coupent tout. Ils veulent nous étrangler. Ils s'appuient sur la gendarmerie pour nous mettre la pression. Nous avons jusqu'à fin juin pour évacuer les lieux. Dans un réduit comme celui-là, comment voulez-vous qu'on se sente bien? Ce n'est pas pour une vie de famille. On souffre beaucoup. On ne peut rien faire ici. Vous voyez, elle n'arrête pas de pleurer.
Mais il y a toujours, chaque jour, des dizaines, des centaines de Marocains qui prennent la mer pour venir s'échouer sur les rives ici de l'Andalousie. Qu'est-ce que vous diriez aux Marocains qui s'apprêtent à partir et à suivre le chemin que vous avez fait?
Mais c'est de la folie de venir. Moi aussi, avant, je n'y croyais pas. Mais à l'époque, les moyens de communication n'étaient pas aussi développés qu'aujourd'hui. Maintenant, tout le monde voit bien dans les médias qu'ici, ça ne va pas. Mais les gens continuent de ne pas y croire. C'est aussi de la faute de ceux qui sont ici. Beaucoup rentrent au pays, font des prêts, s'endettent, achètent des voitures pour que les gens pensent qu'ils ont réussi. Ça contribue à faire rêver les autres d'un Eldorado qui n'existe pas.
Mais vous, quand vous allez voir votre famille, vous leur dites la vérité?
Moi, je n'appelle même plus. C'est eux qui m'appellent tous les jours. Et chaque fois, ce sont des pleurs qu'ils écoutent. Donc ils comprennent bien que je suis dans une situation désespérée.
Où est-ce qu'on est ici, Spitou? On a quitté les serres.
On est dans notre station balnéaire préférée, concourue par l'Europe entière. Les Allemands, c'est là qu'ils viennent.
Là, on est vraiment dans la station balnéaire par excellence, avec sa plage de sable fin. Là-bas, on voit des centaines de transats, les cocotiers, les jeux pour enfants, des gens qui mangent des glaces. On est loin des serres où les travailleurs migrants travaillent, qui sont pourtant à peine à 1 ou 2 kilomètres d'ici.
Voilà la réalité d'ici. Quand on sait que la nuitée peut couvrir le salaire de plusieurs jours de nourriture agricole, c'est aberrant. Pour moi, ce luxe est insolent, je ne veux pas. Occasionnellement, je passe par là, mais c'est choquant. Parce que ça donne la nausée de voir que d'un côté, il y a des meurs la faim et de l'autre, l'opulence.
Un reportage de Alice Milo réalisé par François Porcheron. Nicolas Duns, je rappelle que vous êtes en charge du groupe de travail saisonnier migrant à la Confédération Paysanne. Nous avons entendu dans ce reportage à quel point c'est difficile pour les migrants surexploités donc de faire entendre leur voix.
Je veux juste faire une petite précision. À la marge du reportage, c'est qu'on trouve une majorité de migrants qui viennent des pays du Sud, Almeria et à Huelva, c'est pareil. mais on trouve de plus en plus de populations polonaises et roumaines. Et il faut savoir que le patronat là-bas joue très finement sur ces concurrences entre ceux qui ont des papiers, ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont blancs, ceux qui sont noirs, etc., etc. Donc il joue sur la concurrence entre les plus pauvres, ce qui crée une difficulté supplémentaire pour les syndicalistes, pour arriver à unifier un peu un discours, casser ce racisme ambiant qui est utilisé systématiquement comme arme de baisse des prix et faire de la pédagogie pour que tout le monde, au moins en tout cas une majorité, se mette d'accord pour défendre leurs droits. Le deuxième élément de difficulté, c'est migrants saisonniers. Quand on dit saison, une saison traditionnelle, pour nous en tout cas, dans Languedoc-Roussillon, c'est... 2 mois de récolte de fraises, 3 mois de cerises, oui, 3 semaines de vendanges. Ce sont des périodes qui sont bornées. Là, Almeria, c'est le rêve du capitaine d'entreprise d'avoir fait une saison du 1er janvier au 31 décembre de l'année, parce qu'il y a du travail systématiquement toute l'année avec tous les apports techniques et de la science là-dedans. Donc, saisonniers, normalement, c'est des travailleurs qui ne restent peu sur place. Migrants, c'est aussi des gens qui restent peu sur place ou qui n'ont pas vocation, en tout cas, à rester longtemps sur place. Donc ça, c'est le deuxième élément qui implique une difficulté de syndicalisation de ces populations. Le troisième élément, qui n'est pas le moindre, c'est qu'une grosse majorité de ces populations sont d'origine rurale, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est des gens qui ont été ruinés par les politiques d'exportation des pays riches de l'Europe en particulier, dont beaucoup n'ont pas de tradition de lutte collective, n'ont pas eu l'occasion historiquement dans leurs pays respectifs de créer des outils de solidarité comme... la coopération, par exemple, qu'on a connue ici en France à sa belle époque.
Mais on se souvient quand même des grèves des migrants, par exemple, qui travaillent dans la culture des fraises à Nea Manolada en Grèce. Des grèves qui avaient eu lieu en 2008, en 2013, en 2014 et qui avaient été fortement réprimées. Ça avait été un peu médiatisé, d'ailleurs. Donc, parfois, il y a des mouvements quand même qui s'organisent.
Alors, oui, il y a des mouvements. Alors, c'est vrai qu'en Grèce, à Manolada, on est sur une concentration similaire à celle de Huelva, c'est-à-dire monoculture de la fraise. Donc, on est loin de 100 000 travailleurs, quand même, heureusement, mais enfin, c'est quand même une grosse concentration.
Ils sont quand même plusieurs milliers, oui.
Oui, ils sont quand même plusieurs milliers, qui se sont trouvés en butte, là, avec des descendants des colonels, quoi, qui avaient le fusil dans la voiture et qui tiraient sur eux quand ils venaient réclamer leur salaire. Donc là, il y a eu une nécessité vitale qui leur a fait comprendre qu'il valait mieux être plusieurs devant un fusil que tout seul. Il y a des procès en cours à l'heure actuelle qui, malheureusement, il faut le savoir, ont donné raison au patron il y a 2 ans.
Alors comment est-ce que c'est possible justement que la législation européenne permette cette situation, cette surexploitation des migrants? C'est quoi? C'est la politique de l'autruche? Tout le monde sait que ça existe aujourd'hui.
Alors, tous les législateurs le savent, en sont plus ou moins conscients, etc. Les consommateurs, non, ou font semblant de ne pas le savoir. Eux, ce qui les intéresse, les consommateurs, c'est de pas s'empoisonner principalement avec les pesticides ou les désherbants, avoir une nourriture saine, etc. Mais n'ont pas encore embrayé d'actes de solidarité envers ces populations migrantes sur l'aspect social. C'est-à-dire qu'on ne se pose jamais la question combien de gouttes de sang, combien de sueur, combien de malheurs sont derrière cette tomate ou cette carotte.
Alors vous vous battez à la Confédération paysanne pour le principe de conditionnalité sociale. Ça veut dire quoi et quels sont vos leviers d'action?
Alors nous on pense qu'il y a 3 principes qu'il faudrait arriver à remettre au cœur des discussions des législateurs. C'est qu'il faut arrêter cette guerre qui a été déclenchée contre les agricultures paysannes de la Roumanie, de la France, du Sénégal, de partout. C'est sûr que l'agriculture paysanne, à l'heure actuelle, n'a pas les moyens de gagner, ni même de résister, et que nous allons tous nous faire laminer. Deuxième concept qu'on a mis en avant depuis quelque temps, c'est celui de souveraineté alimentaire, sur lequel les législateurs devraient travailler, tant en Europe qu'à l'ONU ou ailleurs. C'est le principe de dire que chaque peuple a le droit de définir la façon dont il veut se nourrir. c'est-à-dire de défendre ces populations paysannes et d'empêcher, par exemple, certains États de brader des milliers et des milliers d'hectares à des fonds de pension, à d'autres États, et d'exproprier systématiquement tous les petits paysans qui n'ont pas les protections que certains peuvent avoir en Europe, comme le droit du fermage, etc. Troisième élément sur lequel nous on insiste beaucoup à l'heure actuelle, c'est la conditionnalité sociale des aides. La politique agricole commune, elle aide, elle soutient financièrement et techniquement un certain type de production industrielle. Nous, on dit simplement, il faut que tout soit respecté dans l'agriculture, que le droit au revenu des petits paysans et le droit du travail pour ceux qui travaillent la terre, pour tous les travailleurs de la terre, soient respectés. Et si ces droits-là au revenu des petits paysans ou du travailleur de la terre, qu'ils soient migrants ou qu'ils soient autochtones, peu importe, ne sont pas respectés, c'est-à-dire que si on ne paye pas ce qu'il faut, si on n'a pas le logement, si on n'a pas les heures supplémentaires, si on n'a pas le droit à l'école, si on n'a pas le droit au regroupement familial, si on n'a pas le droit au papier, si on n'a pas le droit au contrat, eh bien ces exploitations-là, qu'elles soient personnelles, coopératives, d'État ou multinationales, ne doivent plus recevoir de soutien de la politique agricole commune.
Merci Nicolas Duns pour toutes ces explications. Pour en savoir plus, vous pouvez lire évidemment le blog de la Confédération paysanne www.agriculture-migration.org. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Merci aussi aux équipes de France Bleu Gare-Lozère qui nous ont permis de vous avoir en duplex avec nous. Demain, nous découvrirons comment utiliser la plante invasive, le typha, pour isoler les maisons, ou encore comment faire de l'énergie avec des miroirs, ou comment limiter le gaspillage des tomates au Niger en pleine récolte. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres, et à demain, même planète, même heure.
La fête de la musique.